passé.
Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus, la première situation au bout de deux minutes pour nous. Mais
RMC, Football Show.
Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Moi, je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
Nicolas Villas.
En compagnie d'Ali Bénard, bien de Jonathan Macardy, Simone Rovera est toujours avec nous. On rappelle que la Lazio s'est imposée 3-0 face à la Roma ce soir. On va y revenir dans quelques instants. Résultat de la 27e journée de Ligue 1 de ce samedi. Le PSG s'est imposé 2-1 face à Caen, 2-2 entre Angers et Monaco. Et 2-2 entre Reims et Amiens. Les Amiennois qui menaient 2-0 face au stade de Reims, et Dia et Cafaro ont marqué les deux buts des Rémois en fin de match, qui ont donc arraché ce point du match nul. Deux buts partout. On sera avec David Guillon dans quelques secondes. Tu me le confirmes, Jérôme Thomas? Il va être là dans quelques instants. Et on rappelle également la victoire du Real Madrid, du Barça sur la pelouse du Real Madrid, 1-0. Le Barça qui avait 9 points d'avance au coup d'envoi de ce match en compte donc maintenant 12. Voilà, victoire 1-0. Le seul but de ce match, c'est signé Rakitic. Ça n'a pas été un gros match une nouvelle fois.
Non, mais ils les ont roulés dessus. Je suis désolé. Le Real a été inexistant, quoi.
Ils sont au-dessus.
Ils sont largement au-dessus et le Real est très faible. Je pense qu'il faut le dire, le Real est faible. Mais c'est pas un beau Real du tout.
Le problème du Real, c'est que t'as plus cette force des joueurs leaders que faisait le Real Madrid. Et ça, l'adversaire, même si c'est pas le Barça, le ressent. Mais là, quand c'est le Barcelone, où tu as vraiment encore des leaders derrière, au milieu de terrain, devant.
Parce que,
c'est totalement
différent. Quand tu regardes la ligne d'attaque du Real, mis à part Karim Benzema, j'irai pas jusqu'à dire que ça ressemble à des Kidam, mais c'est des joueurs lambda, quoi, qui accompagnent Benzema.
Messieurs, chose promise, chose due. David Guillon, l'entraîneur du stade de Reims, est en direct avec nous dans l'after, on vous le rappelle. Reims et Amiens qui ont fait match nul, deux buts partout. Amiens qui menait 2-0 grâce au pénal de Konaté et au but de Timité. Dia et Cafaron égalisés pour le stade de Reims. Bonsoir David Guillon, merci d'être en direct avec nous dans l'after.
Bonsoir.
Bonsoir David.
Bonsoir.
Alors j'avais envie de vous dire félicitations. Vous êtes comment ce soir? Vous êtes frustré? Vous êtes content finalement après avoir été mené 2-0? Vous êtes quand même un peu énervé par le scénar? Dans quel état d'esprit vous êtes?
Non. On peut pas se permettre. On sait qui on est. Revenir et remonter deux buts, c'est toujours une grosse satisfaction. Ça prouve encore que mes joueurs ont beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. C'est vrai que sur cette première mi-temps, c'était mal parti parce que Amiens avait marqué sur un pénalty, un coup du sort, c'était même pas une occasion. Et puis sur un deuxième coup du sort, juste avant la mi-temps, ils nous ont aussi mis un centre qui a été dévié dans notre propre but. Donc c'était vraiment très difficile pour mes joueurs de rentrer à la mi-temps avec deux buts d'écart. Mais voilà, sur cette deuxième mi-temps, il a fallu à la mi-temps les rebooster et puis leur faire comprendre qu'il fallait croire en eux. Et ils ont bien capté le message. Et c'est vrai que sur cette deuxième mi-temps, on a fait preuve de beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup de générosité. On a tout tenté. On est passé avec deux attaquants, un 10, deux ailiers. On a mis du jeu direct. On a joué les deuxièmes ballons. C'était, voilà, des fois le football, c'est pas technique, c'est pas tactique, c'est le cœur. Et c'était ce cas sur cette deuxième mi-temps.
Je rappelle que Reims est cinquième au classement, avec un point d'avance, notamment sur Marseille, avec un point de retard sur l'AS Saint-Etienne. 42 points pour le stade de Reims après 27 journées. Ali Benarbia, une question pour vous. David Guillon.
Bonsoir David.
Bonsoir.
Alors, cette différence avec cette équipe de Reims, c'est ce qui m'a plu, c'est que vous perdez 2-0, c'est un fait, mais cette équipe n'a pas paniqué, en fait. Et c'est ce qui fait que Reims a ce classement, Reims est solide à l'extérieur et à domicile, et même sans paniquer, vous aurez pu même, à la fin, hein, dans les derniers moments, cette frappe au ras du poteau, gagner le match, mais surtout, ce qui m'a plu, c'est que vous n'avez pas du tout paniqué.
Oui, c'est ça, c'est que il fallait quand même monter le curseur d'agressivité, être encore plus présent, parce que sur cette deuxième mi-temps, fin de première mi-temps, les joueurs avaient laissé trop les Amiénois, et puis une fois qu'on a monté le curseur, et puis qu'on est resté dans nos principes de jeu, qu'on a bien écarté le jeu, on a vu qu'on était en possibilité de faire mal aux Amiénois, et puis c'est vrai que on aurait pu vivre une très très belle émotion, parce que ça s'est joué à un poteau près, puisque la frappe de Harbour, elle a touché le poteau, elle aurait pu rentrer. Mais les garçons restent sereins, restent lucides. Ça avait été le cas exactement pareil à Montpellier. Puis là encore ce soir, même s'ils ont mis un petit peu de folie, plus de cœur encore pour revenir.
2-2 ce soir entre Reims et Amiens. David Guillon, l'entraîneur du Stade de Reims, est en direct avec nous dans l'after. Jonathan Macardy, une question pour vous, coach.
Bonsoir, David.
Bonsoir.
Écoutez, tout d'abord, je tiens à vraiment à... On a parlé de vous beaucoup ces derniers temps dans l'émission. Et vraiment, je tiens à vous féliciter pour le travail de très grande qualité que vous faites avec cette équipe de Reims depuis le début de la saison. Donc, ceci
Merci,
étant dit...
c'est gentil.
Bah non, mais c'est vrai, franchement.
Mais quand vous êtes pas là, ils vous taillent.
Hein, non, mais c'est vrai que dans l'émission, on n'hésite pas à dire ce qui nous déplaît. On n'hésite pas à dire ce qui nous déplaît, mais il faut dire que ce que David Guillon fait avec Reims, c'est remarquable. Et on vient, c'est là où j'en viens avec ma question, c'est de savoir, là, vous êtes cinquième, quels sont vos objectifs pour la fin de saison?
Ouais, mais c'est ce que je répète depuis quelques semaines.
C'est surtout pas de langue de bois, s'il vous plaît.
C'est surtout pas de la langue de bois. C'est on a vraiment décidé depuis le début de se concentrer vraiment sur le match qui arrive. À aucun moment je parle de l'avenir ou je parle du passé. Je ne parle que du présent. Je veux vraiment que mes joueurs soient focalisés sur le présent. Jusqu'à maintenant, ça nous réussit bien. Donc on reste comme ça. Maintenant, il nous reste deux matchs très importants, bien sûr, avant la trêve que sont Dijon et Pinan. Et puis après, on arrivera dans la dernière ligne droite, vous le savez, dans le Money Time. Et puis là, à ce moment-là, on se fixera éventuellement un objectif avec les joueurs. Mais là, il reste quand même 11 journées, 33 points. Il reste encore beaucoup de choses. Attendons la trêve internationale pour se fixer un objectif. Ouais.
Moi, en fait, je vais reformuler ma question. Là, au point où vous en êtes, donc on peut dire que le maintien, c'est fait. La saison, maintenant, ça peut être que des perspectives excitantes. Est-ce que votre objectif principal, c'est pas justement de préparer la saison prochaine en progressant dans le jeu, en mettant des choses en place sur lesquelles vous pourrez vous appuyer l'an prochain?
Mais le problème, c'est qu'il va peut-être perdre des joueurs, David Guillon.
Oui, ça c'est sûr.
Non. Comme je viens de vous dire, c'est même pas de penser au futur, c'est même pas de penser au passé. On est vraiment dans le présent. On ne veut être que dans le présent toute la semaine. On va préparer notre match de Dijon, on va ne penser qu'à Dijon et on va travailler que pour Dijon. Donc on est vraiment dans le présent, je suis pas du tout dans l'avenir en train de spéculer pour savoir éventuellement l'année prochaine ceci cela. Non, je suis vraiment dans le présent, je veux que mes joueurs ils continuent, on va entamer notre 9 mois de vie commune, c'est ce que je leur ai dit, et on a mis des bases défensives en début de saison très solides, avec une grosse discipline. Aujourd'hui, l'équipe a progressé, on a mis des buts, on a mis des stats, on a mis des victoires. Donc,
et vous êtes agréable à regarder en plus.
Ouais, l'équipe progresse, une saison à Lille, c'est très bien, ça se construit, c'est comme un match. Et là, on est en train de construire notre saison. Et puis, on est en train surtout de progresser. Donc, j'ai vraiment pas envie de dilapider. D'accord. Tout ça. Et puis, au contraire, que mes joueurs et que mon groupe de joueurs vivent le présent et puis savourent.
Très bien.
David Guillon est en direct avec nous dans l'after, entraîneur du Stade de Reims. David, j'ai une question pour vous. Ces derniers jours, il y a eu un grand débat qui a été fait ici en France avec également les entraîneurs. Vous savez que depuis le départ de Claude Puel de Leicester, il a été remercié, Claude Puel. Il n'y a plus d'entraîneurs français dans les grands championnats européens. Comment vous expliquez ça, David?
Ouais, c'est vrai que c'est dommageable. Je pense pas que ce soit un problème de niveau, parce qu'on sait très bien qu'on est super bien formé. On sait très bien qu'on a beaucoup de ressources à travers les entraîneurs français. On est champion du monde avec un entraîneur français. La Champions League, les trois dernières, c'est un entraîneur français. La Champions League féminine, c'est un entraîneur français. Donc c'est pas un problème de niveau. Ça, c'est une certitude. Peut-être aussi que on a du confort en France, on est bien protégé, on travaille dans de bonnes conditions. C'est peut-être une première explication à ça. Et puis aussi, je pense que c'est culturel. On a moins envie de bouger comme les Portugais peuvent bouger ou comme les Espagnols peuvent bouger. Donc ça remplit un petit peu tout ça. Et puis après, une petite lacune que l'on peut avoir, c'est certainement que il faut qu'on améliore ça. C'est le goût des langues où là-dessus on n'est pas très très performant. Donc ça peut peut-être être une toute petite explication, mais voilà, je ne vois que celle-ci. En tous les cas, c'est surtout pas un problème de niveau.
Ali Benarbia.
Oui, pour revenir sur Reims et ton travail que tu fais avec ce groupe-là, parce que, comme je le disais, on ne connaît pas autant de joueurs que ça, et que cette équipe puisse évoluer aussi bien à domicile à l'extérieur qu'elle le fait. Pour en revenir sur l'importance de ces leaders qui ont une certaine expérience et l'âge, comme Abdelhamid, comme Romao, comme Chavaria, quand c'est cette colonne vertébrale fait vraiment son travail à 200%, automatiquement ça rassure toute une équipe, et ce sont vraiment des relais pour un coach. Est-ce que tu le ressens vraiment?
Ah oui, pour moi, c'est un véritable confort en début de saison. C'est un moment très important, tu le sais, Ali, dans un groupe. C'est identifier tes leaders et puis ensuite leur faire confiance et puis surtout leur expliquer ce que tu attends d'eux et que ce soit des vrais relais pour toi. Et puis quand ça se passe comme ça et puis quand la confiance, elle est commune, c'est-à-dire que moi je leur fais confiance et puis que eux me font confiance, voilà, ça permet de faire avancer et puis ensuite les autres joueurs se raccrochent à eux. Donc j'ai vraiment besoin de ces leaders-là, c'est essentiel dans un groupe, tu le sais, il n'y a jamais de grandes équipes sans grands leaders.
Exactement. David Guillon, merci d'avoir été avec nous, bravo, merci encore David. Pour ce match nul,
merci. Parce
que mine de, il y a une stat, on ne l'a pas rappelé, c'est votre 12e match d'affilée sans défaite, toutes compétitions confondues. Hein.
Non, 11e en championnat et 13 toutes confondues, je crois.
Bah vous avez vu, j'en ai oublié alors.
Ouais. Et bah bravo encore David.
Un championnat, voilà. C'est long.
Merci.
C'est pas
bravo, merci, bonne soirée David.
Bonne soirée, bonne chance, David.
Merci, au revoir.
Salut.
Ciao, ciao. Bon les gars, on va parler d'autre chose maintenant. Alors non, tiens, d'abord, je vous lis quand même la réaction de Christophe Pélissier également après ce match nul. On rappelle qu'Amiens menait 2-0 face face à Reims. C'est toujours frustrant de mener 2-0 et de ne pas gagner, mais c'est le football. Le plan était presque parfait. Ouais, voilà ce qu'a déclaré.
Ça résume très bien.
Voilà, c'était c'est la déclaration, la réaction de Christophe Pélissier, l'entraîneur d'Amiens.
Après, Nico, c'est toujours quand une équipe gagne, surtout à l'extérieur, et que change sa façon de jouer sous prétexte qu'elle mène au score. Et en France, on a ce petit problème-là psychologiquement. Et c'est un petit peu dommage. Mais maintenant, je l'ai vu chez Arsenal à Tottenham. C'est-à-dire qu'ils mènent 1-0, ils étaient très bien, ils étaient assez hauts, ils se créaient des occasions, ils faisaient la différence. Et après, progressivement, comme s'ils voulaient lâcher le ballon à l'adversaire pour se sentir plus costaud défensivement. Mais c'est pas toutes les équipes qui jouent comme l'Atlético Madrid, qui ont cette faculté à être costaud pour être derrière défensivement. Le PSG le fait mieux maintenant. C'est pour ça que je vois Paris Saint-Germain être beaucoup mieux en Champions League, parce qu'ils ont la capacité défensivement à encaisser les coups. Et c'est pas toutes les équipes qui ont cette capacité, surtout en Ligue 1. Voilà.
Lazio Roma, c'était l'affiche de la 26e journée de Serie A. C'était surtout le choc en Italie de ce samedi. On va revenir sur le classico en Espagne, sur celui au Portugal aussi, sur les affiches en Bundesliga aussi. 3-0 pour la Lazio ce soir. Et grosse conséquence au classement, Simone.
Bah oui, grosse conséquence au classement, parce qu'il y avait déjà un cadre plutôt positif pour la Roma, la défaite de l'Inter vendredi, donc pouvait revenir à la quatrième place à égalité des points avec les Nerazzurri. Par contre, ce qui change totalement avec la victoire de la Lazio, c'est que la Lazio, qui avait 6 points de retard sous la Roma avec un match récupéré, rentre totalement dans la lutte pour cette quatrième place, troisième place, quand même les quatre premières classes sont qualificatives pour la Ligue des Champions, donc la bagarre est ouverte pour tout ce que vous voulez entrer. Ce que fait mal dans la tête des joueurs de la Roma, et j'ai vu les premières réactions du coach Di Francesco, mais aussi du capitaine Daniele De Rossi, c'est que ça se répète. J'ai regardé un peu le résultat sur cette saison face aux grands clubs italiennes ou en Europe. T'as deux défaites face au Real Madrid, t'as un match nul, une défaite face au Milan, t'as une défaite face à la Juve, une match nul à domicile face à l'Inter, une match nul face à Napoli. Il n'y a eu jamais une victoire face à un grand. Oui, il y a eu les derbies aller, mais encore une fois, les derbies, c'est un match tellement spécial qu'une victoire, bon, ça va. Mais globalement, ce que manque à la Roma, c'est une continuité, une identité. Il y a eu 7 claques, 7 buts encaissés en Coupe d'Italie face à la Fiorentina. Là, c'est différent dans les scores, mais au niveau comptable, ça fait peut-être plus mal de prendre 3 buts dans les derbies, donc dans les matchs plus importants de la saison en Serie A, face à ton adversaire, ton pire ennemi, ton meilleur ami ou ton meilleur ennemi, qu'on peut dire, 3 jours avant le Porto. Donc il y a vraiment l'inquiétude, parce qu'il y a eu des erreurs vraiment individuelles, l'erreur de Fazio sur le premier but, de Juan Jesus aussi qui est pas au niveau. On a vu que quand Manolas n'est pas là, la Roma manque vraiment des forces défensives. Un match vraiment décevant de Dzeko, la pépite, la jeune Zaniolo, son premier derby, on dirait qu'il a subi un peu la pression. La Lazio a fait un match beaucoup plus physique, beaucoup plus intense. La Roma, peut-être, s'attendait pas d'être pris d'entrée par la Lazio. Et la dynamique, après les buts marqués, après 12 minutes de Caicedo, a été totalement dominée par la Lazio. C'est inquiétant parce qu'on retrouve ces erreurs de la Roma match après match, période après période, t'as toujours des,
est-ce que tout les risque grands de, matchs. Non, mais ils risquent de rater la Ligue des Champions, là. Ils sont à 3 points de l'Inter et de la 4ème place, toujours. Hein.
Bah, t'es à 3 points de l'Inter, t'as quand même.
T'as 3 points d'avance sur la Lazio, maintenant.
Oui, qui a un match en moins.
Ouais.
Qui a en plus. Moins, donc, ça risque de rentrer dans les jeux. Et en plus, moi, je souhaite vraiment que la Roma arrive à faire un exploit. On verra Porto dans quelles conditions on arrive à cette match.
Là, ils sont en train de perdre face au Benfica, donc ils sont pas dans la meilleure
disposition. C'est une grosse claque à niveau mental et à niveau physique, peut-être. Mais si tu continues en Ligue des Champions et tu as des hauts et des bas à cette, avec cette continuité des hauts et des bas, ça risque d'être compliqué pour la fin de la saison. Oui, ça, c'est vrai.
Toi, tu me posais une question tout à l'heure sur Pastore, toi.
Oui, bah, c'était parce que Pastore, depuis qu'il est arrivé à la Roma, j'ai l'impression qu'il souffre des mêmes maux qui étaient les siens au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire tout le temps blessé, qu'il ne joue pas, qu'il est régulier, que même quand il joue, il est pas, à part des coups d'éclat, il est pas là.
Ouais. Moi, j'étais vraiment surpris de le voir rentrer en jeu à 25 minutes de la fin ce soir, parce que déjà sur les 7 derniers matchs des championnats, il avait fait 0 minutes. Il avait joué 45 minutes face à la Fiorentina et il était sorti à la mi-temps, donc parce que lui, comme toute la Roma, a été hyper décevant. On rappelle que face à la Fiorentina, ça finit 7-1 pour la Fiorentina.
Ouais.
Aujourd'hui, tu es vraiment dans la difficulté. Tu n'arrives pas à sortir du match très agressif de la Lazio parce que la Roma n'arrive pas à avoir même beaucoup d'occasions. Il y a un frappe de loin en deuxième mi-temps de Florenzi. Il y a, oui, cette énorme occasion de Pastore qui anticipe même Pellegrini 3 minutes avant le pénalty de 2-0. Il rate quand même à quelques mètres du but. Il n'arrive pas à trouver les cadres. On peut se poser une énorme question, pas seulement quel va être l'avenir des Pastore à la Roma, qu'est-ce que va être son fin de saison. Si tu perds aussi une compétition en plus, comme c'est la Ligue des Champions qui pouvait permettre de tourner un peu plus, quand va jouer Pastore? Et s'il joue et il apporte rien, parce que malheureusement, t'as raison, il a fait des beaux matchs en début de saison, 2 buts magnifiques en talonnade. Mais ce soir, son entrée en jeu n'a rien donné encore.
Il se plaît à Rome. Il a fait venir ses Mustangs, là.
Il se plaisait à Paris aussi, hein.
Ah, bah oui, c'est pour ça, là. C'est ça que je vois.
Rome, quand même, c'est une belle ville. Beaucoup de temps en Italie. Lui, il était revenu avec une statue de joueur qui devait être titulaire dans un milieu à trois comme relayeur gauche.
Et rappelle-toi quand il quitte l'Italie pour aller au Paris Saint-Germain, les Italiens pensaient que c'était le nouveau Zidane. La comparaison, c'était avec Zidane.
Zidane, c'était même plus milieu de terrain. Lui était plus attaquant. Il y avait une différence peut-être de position.
Mais les gens le considéraient que
jouer deuxième attaquant.
Il y avait des éclats, des génies qui étaient incroyables.
C'est vrai que techniquement, il a un truc quand même.
Non, mais c'est pas ça. C'est que déjà, en plus, qu'il était très bon.
Mais si, Ali dit toujours, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça.
C'est pas le même joueur. Entre un joueur qui était à 100% light, il se sentait bien même au Paris Saint-Germain, il a fait des trucs exceptionnels, et un joueur
il a été régulier les 6 premiers mois,
comme qui a continué à avoir des problèmes physiques,
13 matchs au final,
et avoir aucun rythme de match quand tu comptes les derniers.
Ali, c'est pas que des
PSG.
Problèmes physiques, c'est pas que des problèmes physiques, il a d'autres centres d'intérêt que le football dans la vie. Et on va pas le blâmer parce que
il y en a d'autres, hein, ça les empêche pas de faire carrière, oui. Hein, tu vois. Donc
il adore le football, Pastore. Ne dis pas qu'il a d'autres. Quand il est sur un terrain, on le sait, il adore le football.
Moi, je te dis qu'il a d'autres sans intérêt que le football dans la vie.
Oui, mais en tout cas, quand je vois jouer,
bah, ça veut dire que ça lui prend de l'énergie, qu'il aime bien qu'il a une certaine passion pour. On peut le dire.
Pourquoi?
Il a une certaine passion pour les automobiles.
Cristiano Ronaldo aussi.
Laisse-moi terminer. Non, alors je pense qu'il a meilleur goût que Cristiano Ronaldo. Il a une certaine passion pour certaines automobiles. On sait que quand il était à Paris, maintenant. On peut le dire, il faisait beaucoup d'allers-retours en Angleterre pour aller voir le mec qui lui préparait ses Mustangs anciennes, machin et tout, qui passait plus de temps. Et ben, faire des voyages, faire des allers-retours entre Paris, Londres, au lieu d'aller t'entraîner, de louper des entraînements pour faire ça, c'est pas génial, voilà. Je te dis ça, juste ça.
Je pense pas qu'il ait loupé des entraînements.
Ah, bah si, c'est arrivé. C'est arrivé.
Si à Rome, il y a rien à dire.
C'est arrivé.
Non.
Si c'est arrivé à Paris qu'il loupe des entraînements pour
faire ça. Un entraînement, peut-être un décrochage.
Et ben même, c'est déjà inacceptable.
À Paris, si t'as même, t'as pas les mêmes contrôles 24 heures sur 24 du monde autour de toi que toi à Rome.
Si
à Rome, si rater des entraînements pour autre affaire.
À Rome, ce serait pire.
On savait ça.
Ce serait tout le monde le ferait, bien sûr.
À Rome, moi, je sais qu'il fait tout ce qu'il peut. Malheureusement, il n'y arrive pas. Physiquement, il n'est pas au niveau. Il a eu plein de blessures en début de saison et il a perdu sa place parce qu'il y a eu l'arrivée des Zaniolo. Mais la Roma, c'est inquiétante. Après, ces soirs, on a vu qu'il y a des équipes qui jouent mal comme Milan parce qu'elle jouait très mal ces soirs, mais gagne. Parce que c'est dans une bonne dynamique, la Roma n'arrive pas à créer une dynamique.
Je pense qu'à la Roma, t'as trop de joueurs qui sont pleins de talent, comme Pastore, comme même si c'est l'entraînement, comme Chic, mais c'est des joueurs qui sont, t'as l'impression que c'est dans la tête que ça suit pas. C'est une équipe qui est trop gentille.
T'arrives pas t'arrives pas à peut-être trouver cette continuité qui te permet de devenir vraiment un joueur cadre. Après, les soirs où Dzeko est pas bien et Kolarov n'était pas bien et De Rossi sort après 60 minutes parce qu'il est cramé et il y a la Ligue des Champions derrière, pouf, disparaît.
Simonet, merci.
Pouf.
J'ai juste un petit mot très rapidos aussi. Milan a gagné 1-0 cet après-midi face à Sassuolo, c'est ça?
Match très compliqué du Milan. Sassuolo, je te dis que il aurait mérité de gagner. Après, ça arrive dans les footballs. Milan a trouvé quand même quelque chose d'incroyable. Au-delà des Piatek, Paqueta, une solidité derrière.
Oui.
Ils ont pris 4 buts depuis le début de l'année, sur les 10 derniers matchs, mais je me trompe pas. Donnarumma fait la saison, je pense, de sa vie.
La charnière.
Et la charnière Musacchio.
Milan est troisième.
Milan est passé devant. Milan a récupéré depuis la fin de la phase aller, donc 7 matchs, 9 points à l'Inter.
Ah ouais. Mmh.
Donc il est sur une dynamique incroyable aujourd'hui.
Pas tout le temps beau, mais c'est.
On verra. On dirait qu'ils sont eux les vrais candidats entre la lutte Roma, Inter, Lazio et Milan. Eux, on dirait qu'ils ont une place.
Simone, c'est les moins beaux, mais c'est les plus efficaces.
Ils sont les moins beaux.
Et puis l'Inter.
Après, les autres sont pas beaux, mais
oui.
Ça n'a jamais été beau Milan.
Ouais,
mais depuis l'arrivée des Piontek, depuis l'arrivée des Paqueta et depuis que Gattuso a trouvé son 11, c'est toujours le même.
La charnière, elle est solide.
C'est incroyable. Aujourd'hui, match moins bon depuis quelques mois des Bakayoko, mais toujours supérieur aux autres.
Dans quelques instants, on sera avec David Lortolari parce qu'il y avait également des chocs en Allemagne. Notamment, le Bayern s'est imposé 5-1 sur la pelouse de Gladbach. Vous savez, Gladbach, c'était le favori pour le titre de Lortolari il y a quelques mois. Bah, il sera avec nous juste après ça.
À qui, Gladbach?
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie d'Ali Benarbia, de Jonathan Macardy, Simone Rovera reste avec nous. Il se plaît, Simone.
Oui, je me regarde, je me plais. Après, c'est la belle compagnie ce soir. Donc,
je me regarde, il a dit.
Ouais, je me regarde.
Ouais, mais t'as raison. Donc, 27e journée de Ligue 1. Je vous rappelle les résultats de ce samedi. Le PSG a gagné 2-1 à Caen cet après-midi. Ce soir, 2-2 entre Angers et Monaco. Angers qui menait 2-0. 2-2 entre Reims et Amiens. Amiens menait 2-0. On était avec David Guillon tout à l'heure en direct dans l'after. Reims qui est 5e au classement avec ce résultat, avec un point de retard sur Saint-Etienne qui est 4e, avec un point d'avance sur Marseille qui est 6e. Monaco est 16e avec 26 points. Ils ont 6 points d'avance sur Caen qui est en position de barragiste.
C'est ça qui est important, c'est le fameux 6 points sur le barragiste. On peut dire déjà qu'ils sont sortis de la zone rouge et que progressivement continuer, cette équipe monégasque va pouvoir souffler et préparer la saison prochaine.
Et Dijon va à Lille demain.
Ouais. Parmi les chocs de ce samedi, on rappelle que le Barça s'est imposé 1-0 face au Real. On va y revenir dans quelques instants. La Lazio a battu la Roma 3-0. On vient de l'évoquer avec David Lortolari.
Non, mais Simone Robert.
Parce que c'est un lapsus.
Simone. Oui, si, David Lortolari.
Après, David
Lortolari.
Et David Lortolari. Et là, David
Lortolari. Allô,
Freunde.
Allô, Freunde. Bonsoir.
Non.
Il a
non, mais on est loin style. Des alliances d'un autre temps.
C'est bon ça, tiens. Tiens, les derniers instants également du Classico au Portugal entre le FC Porto et le Benfica. 2-1 pour le Benfica qui est en tête de la Liga portugaise avec ce résultat pour l'instant. On y reviendra dans quelques secondes avec Alex De Castro aussi. Et alors en Allemagne, il y avait du choc également, mon Lorto. Alors je donne quelques résultats. Schalke 04 qui est toujours engagé en Ligue des Champions a perdu 4-0 à domicile face au Fortuna Düsseldorf.
Et justement, on dit a perdu 04.
Oh, c'est drôle. Bravo.
Le Lorto Comedy Club du samedi soir, bonsoir.
Le Hertha Berlin a perdu, s'est imposé 2-1 face à Mayence. Le RB Leipzig est allé gagner 2-1 à Nuremberg. L'Eintracht a battu Hoffenheim 3-2. Le Bayer Leverkusen a battu Fribourg 2-0. Et alors, mon Lorto, ton Gladbach à toi a perdu 5-1 à domicile face au Bayern, qui rejoint Dortmund au classement en tête de la Bundesliga.
Et ben alors.
Oui. Non mais c'est évidemment l'événement du jour, c'était le dernier match du soir, 18h30, il y a eu quelques matchs très très intéressants et très spectaculaires plus tôt dans l'après-midi, notamment ce 3-2 dont tu as parlé de Francfort contre Hoffenheim, un duel fabuleux, mais c'est vraiment le match du soir qui a évidemment retenu l'attention médiatique, notamment avec, et on en avait parlé hier soir, avec la défaite de Dortmund à Augsbourg. Et le Bayern a été très costaud, a été très puissant, a été très Bayern ce soir. On peut dire, si on veut, après l'ouverture du score très rapide à la 66e seconde, si je me souviens bien, par Martinez, qui est décidément l'homme en forme du moment, qu'il faudra suivre d'ailleurs contre Liverpool. On peut peut-être dire que le Bayern a légèrement tremblé lorsque Gladbach a réussi à revenir de 2-0 à 2-1. avec le but de Lars Stindl, qui a redonné un peu d'espoir. Mais dès le début de la deuxième période, bis repetita, comme en première période, dès la première minute de jeu, le Bayern à nouveau a frappé fort, a marqué, et finalement, démonstration 5-1 avec, je le disais, Martinez, mais avec surtout, messieurs, c'est intéressant ça, beaucoup de joueurs offensifs différents qui ont marqué. Lewandowski deux fois, Gnabry aussi, Thomas Müller a marqué aussi le deuxième but. Donc le Bayern, bah, conformément à ce que les grands clubs nous proposent souvent, est en train de trouver sa carburation alors qu'on est en février-mars. Quelque part, c'est bon signe pour la Ligue des Champions, évidemment.
Et ça vient de se terminer entre le FC Porto et le Benfica. Le Benfica s'impose 2-1 sur la pelouse du FC Porto.
Gros boom.
Le Benfica est en tête de la Liga portugaise. Une petite stat, on y reviendra avec Alex de Castro. 9 victoires en 9 matchs pour Bruno Lage.
2 points d'avance.
Voilà, le nouvel entraîneur du Benfica. David, tu penses que là, ça y est, le Bayern va reprendre le dessus en Bundesliga ou pas là? Ils sont à égalité de points, on le rappelle, avec Dortmund.
Alors, il y a des confrères allemands, des journalistes qui ont fait quelques tweets ce week-end, enfin entre hier soir et aujourd'hui, en disant on vous annonce officiellement que le Bayern est champion. Alors évidemment, c'est pas tout à fait fait encore, mais ils sont revenus à égalité de points, différence de but inférieure par rapport quand même à celle de Dortmund. Je crois qu'il y a encore 3-4 buts d'écart de mémoire, mais Dortmund a maintenant un avantage très très léger alors qu'il avait 7-9 points d'avance il y a encore quelques semaines. Oui, clairement la tendance se retourne. Le Bayern profite quand même d'un effectif largement suffisant, parce qu'aujourd'hui il manquait, rendez-vous compte quand même, Ribéry, Robben, Goretzka, Kingsley Coman et j'en passe. Il y avait 6 joueurs essentiels qui n'étaient pas là aujourd'hui, et pourtant le Bayern a réussi à largement dominer son adversaire. Mmh. C'était la dernière chance d'accrocher peut-être quelque chose pour Gladbach au niveau des deux premières places, notamment le titre, parce qu'on y croyait quand même fermement à Mönchengladbach, et puis là ils ont volé en éclats aujourd'hui.
Dis-moi David, quand tu vois cette équipe de Dortmund, j'avais plus l'impression d'avoir une équipe qui était en train d'attaquer un championnat pour être outsider, parce qu'en général tu commences pas en trombe comme le font. Oui. Et ne pas être prêt au mois de février-mars. Et là, j'ai un Dortmund qui n'est pas du tout prêt, ni un championnat, ni un Champions League, et qui est en train de s'effriter au niveau de l'effectif, ce que ne sont pas du tout les grosses équipes comme le Bayern.
Oui, Ali, alors le diagnostic sur le match d'hier, c'est manque de réalisme offensif, manque de réalisme défensif. C'était le retour de Marco Reus après 4-5 semaines d'absence. Ça n'a pas suffi, il n'a pas été suffisamment réaliste, lui, parmi d'autres. Alors,
ils ont un problème physique dans tout le monde en ce moment, c'est évident.
Oui, voilà, parce que...
Ils sont cuits, faut dire comme après, il est, comme c'est.
Quand une équipe manque de réalisme dans les deux surfaces de réparation, on peut dire alors manque de concentration, on peut dire usure psychologique, mais tu as raison, je pense, Jonathan, c'est aussi une dimension physique. C'est surprenant parce que c'est une équipe encore très jeune, mais on l'avait dit, on l'a répété aussi au fil de l'hiver. Mais ils ont fait 6 mois tellement magiques.
David, au rythme auquel ils jouent, les efforts que le jeu que Lucien Favre met en place, les efforts que ça demande. Forcément, au bout d'un moment, si t'as pas un effectif plus profond, tu le payes.
Autant de tournées que ça.
C'est ça.
Peut-être que les très jeunes, comme Achraf Hakimi, par exemple, qui est formidable offensivement, ce défenseur latéral, peut-être que aussi à un moment, alors je vais pas dire qu'on se croit arrivé, mais tu changes de statut, quoi, quand t'as 10 points d'avance en championnat.
À un moment, ils en avaient. T'as dit quoi? Ils en avaient combien? 9. C'était 9.
Ça a été l'avance maximum. Et moi, j'ai bien suivi aussi les interviews qu'ils faisaient, notamment dans la presse écrite, sur des interviews au long cours, des gens comme Axel Witsel qui disait la saison sera réussie et je me couperai ma touffe de cheveux si on réussit à glaner 2 titres. Et peut-être que Dortmund, à l'arrivée, peut-être. On est à 10 journées de la fin, mais peut-être qu'ils seront bredouilles malgré tout.
Peut-être qu'ils voulaient juste garder sa coupe de cheveux.
Peut-être.
Moi, je crois plutôt.
Est-ce que tu raserais ta barbe, toi, Nico?
Tu dis quoi?
Si t'étais champion avec une équipe.
T'étais micro.
Mais moi, je suis pas sportif.
Micro d'or.
Oh non, j'en ai rien à foutre de ça.
Micro d'argent. Alors.
Alors ouais. N'importe quoi. Tiens, un mot également, David, sur Lewandowski, parce que Lewandowski est entré dans l'histoire de la Bundesliga aujourd'hui.
Oui, exactement. Alors, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui sont devant lui dans les statistiques maintenant, et notamment dans l'histoire du Bayern. Alors, ça paraît dingue. C'est un peu comme quand on pense à un Cavani au PSG ou des choses comme ça, ou Ibrahimovic avant dans un autre style. Mais ce sont des joueurs qui, en l'espace de très peu de saisons finalement, arrivent à débouler dans les classements. Et il n'y a plus, en ce qui concerne les buts marqués pour Lewandowski, il n'y a plus que Kalle Rummenigge et Gerd Müller. Donc,
ça veut surtout dire qu'il devient aujourd'hui
joueur étranger.
Voilà, en joueur étranger, il a égalé un record, 195 buts marqués en Bundesliga pour Lewandowski. Voilà. Vous savez avec qui il a égalité ou pas? On va voir. Tu ne dis rien, Lorto. Qui est l'autre mec?
Pizarro.
Joli.
Claudio Pizarro, bien sûr.
Claudio Pizarro.
Quel joueur?
Très bon joueur.
Quel joueur?
Péruvien.
Il est toujours en activité avec le Werder Bremen et toujours bon. Récemment.
Quel âge il a?
40.
40.
Ah oui, ça y est, 40. Ouais,
c'est 40.
Bon, la raison d'avis.
Bah, tu vois, l'OM qui cherchait Mitroglou, ils auraient dû prendre Pizarro.
Pourquoi on est obligé de revenir à l'Olympique de Marseille, là, ce soir?
Parce qu'ils sont
bonne soirée, tranquille. Peut-être de venir m'embêter. Arrêtez de m'emmerder, là, c'est samedi soir. On en reparlera demain. C'est bon, là, stop, hein.
Mais non, les meilleurs.
Non, mais Pizarro, il est grand de taille.
Même Mario, il est pas grand, en plus.
Mario.
Pizarro?
Ouais, si, il est grand.
Puis, quand même.
Enfin, il est pas grand. Mais c'est vrai que Lewandowski, on n'en parle plus trop, en tout cas, ici, en Europe.
Bah, parce qu'il y a l'impression que sa énorme saison en Europe reste celle du 4 buts en demi-finale de Ligue des Champions. On a l'impression que c'est fini. Les grands Lewandowski dans les nuits européennes.
Non,
dans les nuits européennes qu'il marque.
Il y avait aussi le quadruplé là qui met en tranche.
Oui, moi, j'étais dit, dans une nuit européenne, dans un match important, t'as l'impression que son dernier gros exploit, c'est encore avec maillot de Dortmund. T'as l'impression qu'avec les Bayern, quand même Bayern a fait des gros matchs, des grosses saisons, des demi-finales, il n'était pas les joueurs qui étaient si déterminants. Moi, c'est mon impression.
J'ai quand même l'impression que si tu fais un sondage, si tu fais un sondage et que tu demandes quel est le meilleur numéro 9 au monde, c'est lui qui sort, quoi.
C'est bienvenu qu'il se remette à marquer des buts pour lui et pour son aura médiatique, parce que la critique quand même qui était assez tenace le concernant ces derniers temps, c'était Lewandowski cherche surtout à obtenir des fautes et des coups francs et des cartons jaunes et des expulsions de ses adversaires directs, les défenseurs centraux qui parfois le maltraitent, il faut bien le dire. Donc il se concentrait surtout là-dessus, il râlait sans arrêt auprès des arbitres. On l'a vu un peu encore râler aujourd'hui, mais quand t'as un attaquant qui marque deux buts dans un match essentiel, forcément c'est un allié pour lui, quoi.
Juste un mot, David, aussi sur Schalke, qui a perdu 4-0 à domicile, on le disait tout à l'heure, face au Fortuna Düsseldorf. Tedesco, là, c'est terminé, c'est quoi? Ils attendent le match de Ligue des Champions, il y a un éventuel exploit, c'est ça, face à Manchester City?
Alors c'est assez surprenant par rapport à la valse des entraîneurs qu'on connaît quand même assez bien en Allemagne.
C'est 14e Schalke.
Ouais. Alors quand il y a 3-4 défaites d'affilée, souvent les entraîneurs ne résistent pas. Et là, il se trouve que Tedesco, lui, a réaffirmé aujourd'hui après le match qu'il voulait se battre de toutes ses forces.
On est juste perturbé par Pierre Ducrot qui vient perturber l'émission. Excuse-nous, en fait, David.
Insulte en backstage. Ouais.
Il vient, il nous fait des signes. Je suis désolé de te couper pour ça, David, mais Pierre, c'est pas bien ce que tu fais. Et David te le fera payer dans les couloirs.
Oh, non, il a dit qu'il adorait le football portugais. Il a dit, juste dis ça.
Ouais, c'est ça.
Je disais juste, non, mais une petite synthèse rapide sur Tedesco, parce que c'est important, effectivement, Nico, c'est l'entraîneur qui est le plus menacé actuellement. Il a réaffirmé ce soir, lui, toute sa volonté, toute son énergie à continuer, donc lui n'abandonnera pas son poste. Et son président, son directeur sportif, Heidel, a réaffirmé aussi qu'il n'était absolument pas question de remettre, de mettre Tedesco sur la sellette.
Bon, donc, qu'il va servir
jusqu'à preuve du contraire, il est en poste, et il devrait être effectivement en poste pour le match de Ligue des Champions.
David, est-ce que tu peux parler de Coman? Il est en train de revenir? Pas surtout à l'équipe de France?
Ben là, les absents que j'ai cités tout à l'heure, et lui en fait partie, ce sont des absences de courte durée. Hein. Donc ce sont des petits pépins musculaires, il y a eu une inflammation au niveau du tendon pour Alaba, par exemple, pour n'en citer qu'un. Et lui va revenir aussi rapidement. Il va être là pour les prochains matchs, selon toute vraisemblance, et il devrait être là aussi pour le retour contre Liverpool. Donc oui, forcément, actualité équipe de France. C'est vrai aussi pour Haller, hein, messieurs, l'attaquant de Francfort, qui a encore été brillant aujourd'hui, et qui clairement frappe à la porte de Didier Deschamps.
Ah bah moi, ça c'est sûr, t'as totalement raison, David.
De l'Eintracht.
Et alors?
Et alors, s'ils jouent comme ça, même si on gaspille beaucoup, s'ils jouent comme ça, jeudi soir, ils vont mettre 3-4 buts à l'Inter, il n'y a aucune pitié.
David, il a raison, David. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, David.
Merci. Salut, David. Et David, totalement raison sur Haller. Haller, c'est vraiment, il est en train de s'affirmer là-bas.
But, passe décisive. Magnifique jeu.
T'as c'est depuis qu'il est venu dans l'after.
Voilà.
Bonne nuit, David.
Bonne nuit, messieurs.
Dans quelques instants, Alex de Castro sera avec nous. Lui qui, a vibré, qui a commenté le classico au Portugal entre le FC Porto et le Benfica. Et le Benfica s'est imposé 2-1 sur la pelouse du FC Porto. Le Benfica est en tête du classement de la Liga portugaise. Ils reprennent les devants, les aigles.
Tu sais pourquoi Pierrot, il était tout excité? Bah c'est parce que Flavien Thé a mis deux buts, c'est pour ça en fait.
Tu sais qu'il a commenté le classico surtout.
Aussi, ouais, mais il a dû voir que Thé a mis deux buts. Là, il voit, il est bien là.
Gros match du gardien du Benfica.
Vlaco
le président. Ouais. Oh là là, il a été énorme.
Le Brésilien?
Pourquoi tu dis Brésilien?
Non, j'ai compris ça, je croyais que tu avais
dit ça. Non, j'ai dit gros match du gardien de Benfica.
Vlaco dimanche.
Tu veux que je parle portugais?
Il était international espoir allemand, je crois d'ailleurs. Et maintenant, il est international parce qu'il a grandi au. Bah, comme Mitroglou d'ailleurs. Mitroglou a grandi en Allemagne.
En Allemagne, exactement, ouais.
Grosse communauté grecque en Allemagne.
Il s'est exprimé à Marseille.
Voilà, exactement.
Arrêtez, quelques instants avec Ali Benarbia, avec Jonathan Macardy, Simone Rovira et Alex De Castro, spécialiste du Portugal, qui sera avec nous juste après ça.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Ali Benarbia, Jonathan Macardy, Simone Rovira, et il est là, comme promis, Alex De Castro, qui a commenté le classico portugais sur RMC Sport 1 ce soir. Salut Alex. Alors sans micro, ça va être très compliqué en revanche.
Alors, vas-y, allez, tu vas me prêter ton micro, mais je l'attends.
Mais ça dépend lequel.
C'est beau.
C'est miné. Non, prends celui-là. Là,
on approche de minuit, là, ça y est.
C'est miné. C'est mimé.
Le langage des signes, non, c'est pas trop mon truc. Allez, bonsoir tout le monde, bonsoir Nico. Et je sais pas si vous avez regardé, mais en tout cas, on s'est bien amusé dans ce classico. Il y avait tout ce qu'il fallait. Alors, tout ce qu'on pouvait attendre d'un classico, on l'a eu.
On rappelle, au coup d'envoi, Porto avait un point d'avance. Porto était leader de la Liga portugaise. Porto a mené 1-0 dans ce match et Porto a perdu 2-1 chez lui.
Exactement, ils ont perdu 2-1 dans un match qui était très très engagé. On a eu une première mi-temps vraiment avec une énorme intensité de la première à la 45e. Vraiment, ça a joué dans tous les contacts, dans tous les duels. Tout était joué à fond, c'était assez impressionnant. Il y a eu des buts, il y a eu des très belles actions. Et surtout, on a eu de très très belles actions de la part de Benfica, qui s'est montré vraiment le plus dangereux dans ce match. Ah, voilà, c'est bon.
Allez, t'as ton micro maintenant.
Là, voilà.
Il est à toi celui-là.
Il faut travailler correctement maintenant. Et donc, les deux équipes sont vraiment rendues coup pour coup. Il y a vraiment eu de belles actions. Au début, ça se jouait plutôt dans un bon état d'esprit. C'est plutôt sur la seconde période où là,
c'est pas possible ça.
Ah ben, c'est le foot.
Il y a eu un carton rouge comme dans chaque classico. Oui.
C'était un carton rouge magnifique.
Ouais, mais c'était pas fait. Toi, t'as kiffé, toi, les images.
C'était magnifique.
Non, mais ça, c'est...
Vas-y, raconte.
Championnat italien.
Il y a eu un faute. Je sais pas qui est le joueur, mais il a fait un faute. Après.
C'est Gabriel, qui est de Benfica.
Voilà. Après, il s'accroche avec l'adversaire de Porto, il le pousse, donc l'arbitre arrive, fait sort de carton jaune, il dit, ça c'est pour la faute, et après, l'autre carton jaune dit, ça parce que t'as poussé l'adversaire. Donc, deux cartons jaunes en deux secondes.
Ah, il est devenu
champion du monde!
Il est devenu complètement furieux parce qu'en fait, en tombant, le joueur de Porto, Otavio, en l'occurrence, avait mis un petit coup, une petite claque au passage, en fait, à Gabriel, et ça l'a rendu complètement fou. Il est complètement sorti de ses gonds. Il est venu l'insulter de tous les noms d'un coup, comme ça. On n'a pas compris vraiment. Et heureusement que Benfica a quand même réussi à tenir malgré l'infériorité numérique.
Alors, on l'évoquait hier dans l'after. On l'a évoqué d'ailleurs tout au long de la semaine sur le site, notamment rmcsport.fr aussi, sur RMC Sport 1 également. João Félix, la petite pépite du Benfica, l'homme qui vaut 120 millions d'euros. Enfin, c'est le montant de la clause libératoire. Et il est encore planté ce soir.
Alors, il a pas marqué le but le plus compliqué à mettre qui soit. Dans le match, il a été intéressant, il a été sobre et il a été efficace, mais faut le dire aussi, il a pas été aussi flamboyant qu'il ne peut l'être face à des équipes un peu plus mineures, forcément. Mais il y a une stat qui est quand même assez intéressante. Jonas, qui est le buteur le plus, l'un des buteurs les plus prolifiques de l'histoire de Benfica, a marqué moins de buts dans des classicos, que ce soit contre Porto ou le Sporting, que João Félix. Deux seulement pour Jonas, trois pour João Félix.
Ah, il avait mis son premier but face au Sporting d'ailleurs.
Oui, mais énorme. Ouais.
Combien de matchs il a joué au Félix?
Là, il en est à 16 ce soir en championnat. 16.
Et ça vaut 120 millions?
Non, ça vaut pas 120 millions. Il a une clause libératoire.
Tu sais, au Portugal, il y a toujours des clauses. Mais ouais. À moins de
demain,
16...
tu peux mettre ta 206 en vente à 300 000 euros, ça veut pas dire qu'on va te l'acheter.
Hein. Ah, mais il y a des personnes qui te l'achètent. Voilà. Ça, c'est clair. Mais bon. Mais
est-ce que
c'est
206?
Hein? J'avais.
Ah, c'est moi qui l'ai aujourd'hui.
16 matchs. Et une clause à 120 millions d'euros, ça veut dire un petit peu.
Après, quand tu le vois jouer, il a vraiment quelque chose. Bah,
16 matchs, Jonathan. Oui, je sais.
Ça veut rien dire. C'est une clause.
C'est pas une saison. Oui, non, je sais. C'est pas une saison. C'est au bout d'une saison, tu vois un jeune qui brille.
Surtout son potentiel qui est évalué aussi à ce prix-là.
Exactement, sûrement.
La question par rapport au match, t'as commenté le match avec Pierre Ducrot.
Tout à fait.
Est-ce qu'il s'est excité un peu sur le doublé de Flavien Thé?
Il s'est concentré que sur le classico.
Très génial.
Il l'avait vu avant.
Il a envoyé des SMS, mais.
Alors c'est vrai qu'on parlait de João Félix. Il faut parler de Bruno Lage aussi, qui a succédé à Rui Vitória en cours de saison. Il fait que gagner en championnat, ce mec.
C'est exceptionnel. C'est 100% de victoire en championnat. 9 matchs, 9 victoires.
Un skieur, quoi.
Hein? Oui, tout à fait. Mais vraiment, ça marche à merveille. Et avec la manière, en lançant beaucoup de jeunes joueurs. Encore aujourd'hui, on avait un joueur qui s'appelle Ferro en défense centrale, aux côtés de Ruben Dias, qui est pas beaucoup plus vieux.
Un clause libératoire 100 millions, c'est ça t'intéresse? Il a prolongé hier.
Moi aussi, c'est
ça. Je jure que c'est vrai.
Quelle est ta clause libératoire?
Moi, je suis intransférable.
On a vu Jetson aussi. On a vu, João Félix. On en a déjà pas mal parlé. Et ça a tenu, même à 10 contre 11, on se demandait si cette jeunesse allait tenir le choc dans un match aussi important, aussi enlevé. Eh ben ça a plus que tenu, et avec la manière.
Qui fait la passe décisive sur le deuxième but de Benfica?
C'est Pizzi.
Pizzi.
Meilleur passeur du championnat.
Parce que regardez bien l'action, ce qu'il fait, c'est exceptionnel.
Ah ouais,
il fait très bien. Mais c'est exceptionnel ce qu'il fait, c'est-à-dire pouvoir garder le ballon dans le, face dos au but, entre deux joueurs, et après, il arrive à faire une passe décisive entre les jambes.
C'est il fait un très très bon match. D'ailleurs, on avait été surpris avec Pierre de voir que ça a été le premier à sortir dans cette rencontre du côté de Benfica, parce que vraiment, il a été excellent. Mmh.
Sergio Conceição, il était comment, en mode vénère ou pas à la fin du match?
Mais il est tout le temps vénère.
Oui, c'est pas faux.
Même au bout de victoire 3-0, il est vénère. Donc en même temps, c'est compliqué de voir une différence avec Sergio.
Ouais.
Mais oui, non, forcément, il fulminait sur son banc, ça, on l'a bien vu.
J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus aussi. Alors, on rappelle que le FC Porto a son 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Roma. C'est faisable hein, pour le FC Porto. Ils ont qu'un but de retard à faire finalement.
Après ce qu'ils ont pris sur la tête là.
Ouais. Le Benfica. Ouais.
La Roma a pris aussi un gros coup sur la tête.
Les deux.
Le Benfica joue face au Galatasaray en Europa League en 8e de finale.
Non, Dynamo Zagreb.
Ils ont sorti Galatasaray lors du tour précédent aussi. Qu'est-ce que tu penses du niveau du championnat portugais, toi là, cette saison et voire même depuis, 2-3 ans, on va dire.
Le championnat portugais en fait a connu un âge d'or entre on va dire autour des années 2005, 2010, aller jusqu'à 2015 on peut tirer. Là, ces dernières saisons, il y a eu quand même une crise économique, il y a eu un modèle économique aussi qui a été largement revisité, la TPO notamment. Mm-hmm. Et là, justement le niveau est en train de repartir à la hausse, notamment avec un club comme Benfica qui travaille très très bien au niveau de sa formation. Porto qui arrive aussi justement à bien développer ses joueurs. Je parle pas de formation pour eux parce qu'ils ont encore quelques soucis à ce niveau-là. Le Sporting qui continue toujours à peu près à son niveau. Il y a Braga qui continue aussi de bien grandir. Ça travaille toujours bien. Ça, c'est juste que c'est en train de se remettre en place avec de nouvelles solutions.
De nouvelles solutions comme des clubs en Uruguay, ce genre de choses.
Ça a toujours été ça.
Non.
Ça c'est pas nouveau.
Non mais c'est quand même très répandu au Portugal par rapport à d'autres pays.
Le pays en Europe qui a instauré la TPO en gros c'est le Portugal.
Ouais, mais ils ont raison, ils contournent
le règlement. Mais sauf que maintenant il y en a plus donc c'est plus emmerdant pour eux.
Moi ce que je veux dire, je ne les ai pas du tout dans ton accusateur, je trouve que ils contournent les règlements jusqu'à ce que ce soit interdit, ils trouvent toujours des nouvelles solutions.
On parle de football,
les règles sont faites pour être contournées.
Exactement. On parle de football et de jeu, on a toujours un petit peu critiqué, on s'est rendu compte en Coupe d'Europe que les Portugais étaient meilleurs que les Français dans les résultats.
Il n'y a même pas photo.
Et pourquoi? Parce qu'à la base, c'est le jeu. Faut qu'on regarde le jeu. Et quand tu regardes le championnat Portugal et que tu vois les équipes portugaises qui ont joué en Coupe d'Europe, il y a une différence au niveau de rythme que souvent, nous, les équipes françaises qui ont joué en Europe et en Champions League.
C'est pas là la différence. Pas du tout. La différence, c'est sur le cellule de recrutement.
Moi, j'ai vu des matchs d'équipes portugaises et pas face à des cadors européens en Ligue des Champions, voire en Europa League. Et c'est pas toujours des gros matchs champions. Ils sont pris 2-3 branlés sans jouer, parce que tu peux te prendre 4 ou 5 buts en jouant. C'est pas forcément le cas. Mais comme disait Alex, le fait que le modèle soit remis en question. Non, mais le fait que le modèle soit remis en question, c'est que t'es obligé de valoriser tes jeunes joueurs. Le problème, c'est que pour survivre, parce que le Portugal est un pays où les droits télé sont pas mutualisés. Mais il faut les vendre très jeunes, les joueurs aujourd'hui.
T'as quand même une forte imagination dans les cellules de recrutement. Ils prennent un peu plus de risques. Il y a des joueurs ils ont plus d'idées que les clubs en France. Tu peux même pas comparer.
Mais c'est pas du coup joueur. Je parle de la façon de jouer des équipes portugaises. C'est très intéressant et excitant. À chaque fois que j'ai vu, même à un certain temps, tu voyais jouer Braga.
Mais c'est parce que tu regardes que les gros matchs.
Non.
Genre,
quand tu regardes les Coupes d'Europe, c'est pas que des gros matchs.
Après, il y a peut-être plus d'intérêt de la part des équipes portugaises. Que les équipes françaises. C'est peut-être plus une question aussi de comment elles appréhendent, plus qu'une question de niveau. Mmh. C'est plus une question d'intérêt pour ces Coupes d'Europe.
Là où ils peuvent se montrer. Ben, pourquoi nous, les Français, en Europa League, ces équipes-là pouvaient pas se montrer? C'était la même chose. Mais elles se montraient pas autant que les équipes portugaises.
Ouais, mais il y a toujours ce dédain, de la part des clubs français. Pas tout, un petit peu moins dorénavant depuis quelques saisons, mais il y a encore ce dédain des clubs français pour l'Europa League.
Mmh.
C'est moins le cas peut-être maintenant. Puisque t'en parles, passe des Alex de Castro, parles, journée exceptionnelle sur RMC, vous pouvez remporter vos places pour le 8e de finale Rennes-Arsenal. On vous rappelle, il y a 12 000 places qui ont été vendues ce matin au Roazhon Park. Il y avait une queue interminable face au stade du Stade Rennais. Allez soutenir le Stade Rennais, ce sera le jeudi 6 mars à Rennes. Pour gagner vos places, vous envoyez dès maintenant foot au 7-32-16, foot FOOT au 7-32-16 pour gagner des places pour ce 8e de finale entre Rennes et Arsenal. Je rappelle le classement de la Liga portugaise tout de même. 59 points pour le Benfica après 24 journées. Ils sont leaders. Ils ont 2 points d'avance sur le FC Porto. À la 3e place, on a Braga avec 49 points. Et à la 4e place, on a le Sporting avec 46 points qui ne cesse de décevoir. Hein.
Le Sporting qui s'enlise. Mais voilà, c'est pas une surprise quand je disais le Sporting se maintient à son niveau. C'est pas forcément positif. C'est le géant endormi. C'est le club qui, malgré
ce qui s'est passé,
des moyens intéressants, un très bon centre de formation, n'y arrive pas. À l'inverse, on a un Braga qui, avec un budget 3 fois moins, si ce n'est moins, a fait de beaucoup plus belles choses.
Il reste 10 minutes dans cet after. On va passer à l'autre classico, celui du voisin, le petit classico, celui qui n'a qu'un seul S. C'est celui entre le Real et le Barça. Fred Hermel était au Bernabéu pour suivre ce match. Salut Fredo.
J'ai un scoop pour vous. Hola chicos.
Ciao. Vas-y.
Le Real Madrid ne gagnera pas sa 34e Liga cette
quoi
saison. Voilà, je vous dis, c'est bien, c'est dur.
L'investigation. Oh là là.
C'est de l'enquête, c'est la mode.
Voilà. Le truc dans le cadre. TV, Jean-Jacques Bourdin, tout le monde. Voilà, vous êtes clients.
Bravo. Merci Fred, hein.
Attends, mais t'es, Et là, Fred. Huevos que tienes tu,
non? Non, mais écoute, j'ai fait mes petits calculs. 12 points avec, en plus, c'est même pas 12 points, c'est 13 points. Puisqu'en Espagne, c'est le goal-average particulier qui compte. Et là, bien sûr, le goal-average est en faveur du Barça. Il était déjà grâce au match aller. Donc, virtuellement, ça fait 13 points. Donc, c'est fini, quoi. Voilà.
Ouais. Alors, Fredo, juste, tiens, t'étais avec Thibaut Courtois à la fin de ce match, hein, le portier du Real Madrid. On va l'écouter après cette défaite 1-0 qui fait suite à celle 3-0 en Coupe du Roi face au Barça à domicile. Cette semaine.
Quand tu es 12 points derrière, ben ça va être dur, on sait ça, c'est compliqué. Naturellement dans le foot tout est possible, mais c'est dur pour une équipe comme Barça de perdre 12 points. Mais bon, il reste 12 journées, un truc comme ça, donc on doit essayer de gagner tous les 12 et après on verra où on arrive. Mais bon, on doit être honnêtement, c'est presque sûr que pour gagner encore la Liga, ça va être mission impossible presque, tu vois.
Voilà, il est lucide aussi, hein, Courtois.
Mission Impossible. Vous avez compris?
Ouais.
C'est même pas lucide, hein. C'est d'une logique.
Il était comment ce classico, Fredo?
Moins bien que le match de mardi.
Ah, c'est ouais. Ça, hein.
Bah, déjà ouais. Mais en fait, tout simplement parce que je pense que le Real Madrid, qui a vraiment fait un bon match mercredi, s'en est pris 3. A eu peur d'avoir la même chose, donc il était beaucoup moins allant, beaucoup moins dedans, et puis surtout le Barça a beaucoup mieux joué. Franchement, le Barça a fait un match plus que correct aujourd'hui. Ça peut être un grand match, mais c'était beaucoup mieux que la semaine dernière, enfin qu'il y a 3 jours. Messi n'a pas été grandiose, mais enfin il a quand même plus touché la balle. Et puis voilà, globalement le Barça a voulu être le dominateur du jeu comme il l'aime, pas subir comme ça avait été le cas l'autre jour, même si ça lui avait réussi. Voilà, mais le Real, voilà. On les a sentis fatigués. Et ouais, puis il y a des joueurs qui, comme Bale, qui a eu la chance d'être titulaire parce qu'il était devenu remplaçant.
Il est pas au niveau là, hein, Bale.
Vous savez combien de fois il a touché la balle en première période? Il est vite sorti en deuxième période. En 45 minutes, 11 fois.
11 fois.
Non, mais je veux dire, et on voit qu'il a aucune intensité, aucune envie.
Aucune influence, voilà. Surtout.
Quand tu vois que le meilleur joueur du Real, ça a été Courtois, qui a empêché que ce soit un 3 ou 4 0 en faveur du Barça, il a été magnifique. Les buts que n'a pas arrêté Keylor Navas en coupe, Courtois les a arrêtés ce soir. Modric a fait ce qu'il a pu, il s'est beaucoup battu. Vinicius, il s'est battu lui aussi, mais enfin dans le dernier geste, c'était catastrophique. C'est vraiment trop brouillon. Et puis Kroos a été mauvais.
Fantomatique.
Ah ouais, mais c'est fou, hein, un joueur si important. Et puis ça sent, parce que en fait Kroos, c'est un poncé ce que je vais dire, mais c'est le joueur, tu vois, quand il est pas bien que tu vois son importance. Voilà. Voilà, et puis devant, Karim a pas été génial non plus.
Ouais, c'est toute l'équipe, hein.
Voilà, ouais, c'est et moi je suis plutôt, on aura l'occasion d'en reparler dans
la
semaine.
Ça va être dur à la fin de saison, Fredo, hein.
Ouais, mais moi je suis inquiet pour mardi, hein. Ouais, sincèrement, voilà. C'est pas.
Mais franchement, ça manque de qualité.
Est-ce que si le Real Madrid est éliminé en Ligue des Champions, est-ce que cela arrive à finir la saison ou pas?
Pas sûr, hein. Moi, a priori, il est pas menacé.
Oui, mais ça veut dire qu'ils font venir un mec qui est déjà sur le marché. Il y en a pas 50. On pense au même, alors.
Non, mais je veux dire, le, je pense que si le Real Madrid est éliminé en Ligue des Champions, Mourinho, il se prépare pour le mois de juin. Non, parce que c'est la réaction du président. Il faut toujours voir. Après, si le Real Madrid est éliminé en demi-finale, perd la finale, voilà, bon, il y aura peut-être autre chose, mais, si le Real Madrid perd tout, c'est-à-dire tout au mois de mars, la réaction du président va être sévère et ça va être je vais tout vous mettre à la baguette et pour ça on fait venir un père fouettard et le père fouettard libre du football européen il s'appelle José Mourinho.
Mais on en est pas là, hein. Cette équipe manque de qualité, notamment devant. Quand tu regardes les joueurs qu'il y a, Gareth Bale, l'ombre de lui-même, il y a des joueurs qui ont totalement...
Non, c'est pas de la qualité, c'est de l'envie.
Comment?
Parce que Gareth Bale, la qualité, elle est là.
Mais t'as des joueurs qui disparaissent de la circulation.
On sent pas le projet de jeu.
Isco, Vasquez, Asensio, ils sont où?
Lucas Vasquez, non, mais ce qui est terrible, c'est que Lucas Vasquez, ce soir, n'a pas joué. Parce que le coach le réserve pour mardi parce qu'il fait un gros travail offensif, mais il fait un gros travail défensif. Aujourd'hui, Lucas Vasquez, c'est celui qui se défonce le plus sur le terrain.
Mais c'est pas du standing du Real.
Il y a vraiment besoin pour le match contre l'Ajax.
Non, mais Ali, attends, Fred, Ali, c'est un bon joueur, mais c'est pas du standing du Real.
Lucas Vázquez, c'est au mieux, ça doit être un remplaçant.
Non, Lucas Vázquez, c'est un bon petit... Non. Attends, il jouait beaucoup avec Zizou, c'est un bon petit soldat.
Joueur de complément.
Qui fait le boulot. Ouais.
Joueur de complément.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est un bosseur. Et dans une équipe où il y a beaucoup de stars, voilà, ah, il fait des bosseurs comme ça.
Non, mais là, non, mais Lucas Vázquez,
il pouvait pas jouer qu'avec des stars.
Non, mais je te dis, là, dans le Real, à l'heure actuelle, à part Benzema, il y a pas un joueur qui est, tu vois.
Ils sont perdus, Isco, Asensio, ils sont nous, ils sont perdus.
Bale, les gars. Exactement, ouais. Bale, mais pardon, Bale, c'est une star.
Pareil.
Oui, mais c'est pas à ce niveau. Oui, mais c'est une star. Ah oui, alors, Ramos, c'est une star.
T'as compris ce que je voulais dire?
Oui, mais, non, mais je comprends, mais c'est, aussi, les mecs qui sont pas à leur niveau, c'est pas...
Fred Hermel, c'est un star.
C'est lui, il est pas à mon niveau, moi. Moi, je suis à mon niveau.
C'est masculin. C'est un star.
Ah oui, c'est un star, c'est vrai.
Non,
mais c'est
un star. Non, mais vous savez, les amis, on a vraiment le sentiment que le Real Madrid a tiré jusqu'au bout. Tu sais, c'est comme un vieux chewing-gum, tu sais, où tu mâches, histoire d'essayer d'encore un petit peu de goût. Bon, là, franchement, c'est comme ça commence à devenir très insipide. Donc, la révolution, elle va se passer en fin de saison, c'est évident.
Après,
à l'heure du bilan de cette génération-là, de cette équipe-là.
Ah, ça sera magnifique.
Bah attends, c'est je vous rappelle que le Real Madrid est champion d'Europe depuis plus de 1000 jours. Donc c'est un truc de fou. Mais sincèrement, vu l'état anémique de l'équipe, parce que c'est pas qu'ils n'ont pas essayé ce soir. C'est qu'ils étaient mais impuissants quoi face à un Barça bien organisé. C'est pourquoi moi la jeunesse de l'Ajax me fait peur pour mardi.
Alors justement,
heureusement que le match aller c'est quand même 2-1 pour le Real, qui est un résultat qui est quand même assez confortable.
Alors Fredo, justement, puisque tu parles de ce match de Ligue des Champions, on va écouter Thibaut Courtois avec qui t'étais à l'issue de ce match. Bah lui, il y croit, une nouvelle victoire en Ligue des Champions cette saison.
Ouais, l'année passée, je crois, c'est le passé les mêmes trucs. Donc, moi, j'espère naturellement de le gagner parce que c'est le trophée que je ne peux pas gagner. Mais bon, naturellement, je préfère que dans ce moment de la compétition, on ait encore de la coupe, on ait encore de le race pour gagner le titre. Mais bon, une semaine, ben, beaucoup est perdu. Donc, j'espère pas que mercredi ça passe. Mais bon, je crois qu'on a la confiance parce qu'on joue bien. C'est juste le but qui doit rentrer. Mais sinon, c'est bien.
Il est encore dans la race, hein, donc Thibaut Courtois.
Ouais.
Oui, mais parce que Thibaut Courtois, après, il a raison. L'an dernier, cette saison, elle est au niveau de la Coupe et de la Liga, elle est même meilleure que la saison dernière.
Ah oui,
parce que, rappelez-vous, le Real Madrid perd la Liga avec ce 3-0 à domicile contre le Barça juste avant Noël. Le Real Madrid est éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi face à Leganés. Là, ils perdent en demi contre le Barça. Et voilà. Et finalement, ils gagnent la Ligue des Champions. Voilà. Donc, je comprends le parallélisme que fait le gardien belge du Real en disant, bah, l'an dernier, c'était comme ça. Puis finalement, après, je suis pas convaincu que cette équipe-là est la force de tenir au-delà des quarts de finale. Après, bon, l'Ajax, ça peut passer, puis avoir un bon tirage en quart, mais on sent vraiment que c'est comme je dis, c'est le bout du chewing-gum.
Mais en dehors des résultats, en fait, est-ce qu'on sent au moins un projet de jeu? Moi, c'est ça vraiment qui m'embête un petit peu, parce que au niveau des résultats, ça, c'est évident, surtout avec le début de saison qu'il y a eu au Real Madrid. On sait que ça allait être compliqué d'aller accrocher quelque chose, mais en termes de projet de jeu, est-ce qu'on voit quelque chose qui se dessine avec Solari? J'en ai pas l'impression.
Solari, c'est un sparadrap. Donc, Solari sera plus là la saison prochaine.
Donc, si le Real venait à gagner quelque chose, au final, Solari, il saute.
Ouais, parce que après, c'est toujours difficile de virer un entraîneur qui gagne avec des champions, mais faudrait plus ça, non. Mais là, Solari, déjà, au départ, je vous rappelle, quand il arrive le 29 octobre, le Real lui dit, voilà, le présente comme entraîneur intérimaire. Bon, finalement, ça se passe bien, et au bout d'un mois, ils disent, bon, on le garde. Donc, voilà, il sait très bien qu'il sera pas là la saison prochaine, et moi, j'ai très peur que Mourinho revienne. Moi, je vous le dis, sincèrement.
Tiens, le mot de la fin, il sera pour Johan, qui nous a appelé au 32-16, qui est supporter du Barça. Salut, Johan.
Salut à tous.
Salut
Johan.
Bon, bah, ça y est, c'est plié, Johan. Vous êtes champion,
ouais, je crois que c'est réglé, ouais. 12 points, le Real, bon, moi, je pense que on les a laissés loin derrière, et puis bon, il y a l'Atlético, mais je les vois pas non plus refaire leur retard. Donc, je pense que pour cette Liga, c'est réglé, hein.
Et la Champions, tu la sens comment, toi?
Par contre, la Champions, je la sens pas trop bien. Je trouve qu'il y a des équipes qui sont plus costauds que nous. Moi, notre charnière, je la trouve un peu fébrile.
Je suis pas d'accord.
Par exemple, ce qu'a fait Piqué, par exemple.
Piqué, il fait encore un bon match ce soir. Piqué.
Ah, je suis d'accord avec Piqué. Laissez-le parler, les mecs. Vas-y.
Piqué, il est bon en ce moment. Et l'anglais est génial.
Il est bon en règle générale, mais il fait souvent des erreurs. Je trouve que la façon de jouer, elle a énormément changé. Alors, d'accord, c'est efficace. Mais on n'a plus trop la maîtrise au milieu de terrain, je trouve, comme c'était le cas avant.
Valverde est plus pragmatique.
Face à des équipes comme Manchester City, par exemple, où la U aussi réussit à passer, je ne vois pas favori.
Les gars, cet after est déjà terminé. Non. Merci Johan de nous avoir appelé. Merci Ali Benarbi.
Avec plaisir.
Merci Jonathan Kierkegaard. Merci beaucoup Fred Hermel. Bon retour à la maison.
Adieu.
Tu es toujours au stade là, non?
Oui, bien sûr.
Tu fais attention en rentrant.
Ouais.
Mais on va voir message quand tu rentres.
Ouais, d'accord.
Tu vas boire un petit coup avant quand même de sortir.
Non.
Il n'y a pas de
samedi soir.
Là c'est un support, un yaourt et au lit.
Oh. Ouais, cool. Un support, ouais, yaourt et au lit.
Mais j'ai Ligue des Champions mardi.
En revanche, hein, quand tu les appelles. Hein. Allez, bonne soirée. Merci Simonet, merci beaucoup Alex. Merci à toutes et à tous. Merci Jérôme Thomas, merci Daniel Torres. Et nous, on se retrouve demain, bien sûr.
Marseille, Saint-Etienne.
Ouais, entre autres. Bisous.
RMC Football Show, l'After Foot.